comme tout ce qui environnait Odette et n'était en quelque sorte que le mode selon lequel il pouvait la voir, causer avec elle, il aimait la société des Verdurin. Là, comme au fond de tous les divertissements, repas, musique, jeux, soupers costumés, parties de campagne, parties de théâtre, même les rares grandes soirées données pour les ennuyeux, il y avait la présence d'Odette, la vue d'Odette, la conversation avec Odette, dont les Verdurin faisaient à Swann en l'invitant le don inestimable. Il se plaisait mieux que partout ailleurs dans le petit noyau et cherchait à lui attribuer des mérites réels, car il s'imaginait ainsi que par goût, il le fréquenterait toute sa vie. Or, n'osant pas se dire, par peur de ne pas le croire, qu'il aimerait toujours Odette, du moins en cherchant à supposer qu'il fréquenterait toujours les Verdurin, proposition qui a priori soulevait moins d'objections de principe de la part de son intelligence, il se voyait dans l'avenir continuant à rencontrer chaque soir Odette. Cela ne revenait peut-être pas tout à fait au même que l'aimait toujours, mais pour le moment, pendant qu'il aimait, croire qu'il ne cesserait pas un jour de la voir, c'est tout ce qu'il demandait. Quel charmant milieu, se disait-il. Comme c'est au fond la vraie vie qu'on mène là, comme on y est plus intelligent, plus artiste que dans le monde. Comme Madame Verdurin, malgré de petites exagérations un peu risibles, a un amour sincère de la peinture, de la musique. Quelle passion pour les œuvres, quel désir de faire plaisir aux artistes. Elle se fait une idée inexacte des gens du monde, mais avec cela que le monde n'en a pas une plus fausse encore des milieux d'artistes. Peut-être n'ai-je pas de grands besoins intellectuels à assouvir dans la conversation, mais je me plais parfaitement bien avec Cottard, quoiqu'il fasse des calembours ineptes. Et quant au peintre, si sa prétention est déplaisante quand il cherche à étonner, en revanche, c'est une des plus belles intelligences que j'ai connues. Et puis surtout, là, on se sent libre, on fait ce qu'on veut sans contrainte, sans cérémonie. Quelle dépense de bonne humeur il se fait par jour dans ce salon-là. Décidément, sauf quelques rares exceptions, je n'irai plus jamais que dans ce milieu. C'est là que j'aurai de plus en plus mes habitudes et ma vie. Et comme les qualités qu'il croyait intrinsèques aux Verdurin n'étaient que le reflet sur eux de plaisir qu'avait goûté chez eux son amour pour Odette, ces qualités devenaient plus sérieuses, plus profondes, plus vitales quand ses plaisirs l'étaient aussi. Comme Madame Verdurin donnait parfois à Swann ce qui seul pouvait constituer pour lui le bonheur. Comme si tel soir où il se sentait anxieux parce qu'Odette avait causé avec un invité plus qu'avec un autre, et où, irrité contre elle, il ne voulait pas prendre l'initiative de lui demander si elle reviendrait avec lui, Madame Verdurin lui apportait la paix et la joie en disant spontanément « Odette, vous allez ramener Monsieur Swann, n'est-ce pas ?» Comme cet été qui venait, et où il s'était d'abord demandé avec inquiétude si Odette ne s'absenterait pas sans lui, s'il pourrait continuer à la voir tous les jours. Madame Verdurin allait les inviter à le passer tous les deux chez elle à la campagne. Swann, laissant à son insu la reconnaissance et l'intérêt s'infiltrer dans son intelligence et influer sur ses idées, allait jusqu'à proclamer que Madame Verdurin était une grande âme. De quelques gens exquis ou éminents que tel de ses anciens camarades de l'école du Louvre lui parla, « Je préfère 100 fois les Verdurin, » lui répondait-il. Et avec une solennité qui était nouvelle chez lui, ce sont des êtres magnanimes, et la magnanimité est au fond la seule chose qui importe et qui distingue ici-bas. Vois-tu, il n'y a que 2 classes d'êtres, les magnanimes et les autres. Et je suis arrivé à un âge où il faut prendre parti, décider une fois pour toutes qui on veut aimer et qui on veut dédaigner, se tenir à ceux qu'on aime, et pour réparer le temps qu'on a gâché avec les autres, ne plus les quitter jusqu'à sa mort. Eh bien, ajoutait-il avec cette légère émotion qu'on éprouve quand, même sans bien s'en rendre compte, on dit une chose non parce qu'elle est vraie, mais parce qu'on a plaisir à la dire et qu'on l'écoute dans sa propre voix comme si elle venait d'ailleurs que de nous-mêmes. Le sort en est jeté. J'ai choisi d'aimer les seuls cœurs magnanimes et de ne plus vivre que dans la magnanimité. Tu me demandes si Madame Verdurin est vraiment intelligente ? Je t'assure qu'elle m'a donné l'épreuve d'une noblesse de cœur, d'une hauteur d'âme où, que veux-tu, on n'atteint pas sans une hauteur égale de pensée. Certes, elle a la profonde intelligence des arts, mais ce n'est peut-être pas là qu'elle est le plus admirable. Et telle petite action ingénieusement, exquisement bonne qu'elle a accomplie pour moi, Telle géniale attention, tel geste familièrement sublime révèlent une compréhension plus profonde de l'existence que tous les traités de philosophie. Il aurait pourtant pu se dire qu'il y avait des anciens amis de ses parents aussi simples que les vers du Rhin, des camarades de sa jeunesse aussi épris d'art, qu'il connaissait d'autres êtres d'un grand cœur, et que pourtant, depuis qu'il avait opté pour la simplicité, les arts et la magnanimité, il ne les voyait plus jamais. Mais ceux-là ne connaissaient pas Odette, et s'il l'avait connue, ne se serait pas soucié de la rapprocher de lui. Ainsi, il n'y avait sans doute pas, dans tout le milieu verdurin, un seul fidèle qui les aimât ou crût les aimer autant que Swann. Et pourtant, quand M. Verdurin avait dit que Swann ne lui revenait pas, non seulement il avait exprimé sa propre pensée, mais il avait deviné celle de sa femme. Sans doute, Swann avait pour Odette une affection trop particulière et dont il avait négligé de faire de Mme Verdurin la confidente quotidienne. Sans doute la discrétion même avec laquelle il usait de l'hospitalité des Verdurin, s'abstenant souvent de venir dîner pour une raison qu'il ne soupçonnait pas, et à la place de laquelle il voyait le désir de ne pas manquer une invitation chez des ennuyeux. Sans doute aussi, et malgré toutes les précautions qu'il avait prises pour la leur cacher, la découverte progressive qu'il faisait de sa brillante situation mondaine, tout cela contribuait à leur irritation contre lui. Mais la raison profonde en était autre. C'est qu'ils avaient très vite senti en lui un espace réservé, impénétrable, où il continuait à professer silencieusement pour lui-même que la princesse de Sagan n'était pas grotesque et que les plaisanteries de Cottard n'étaient pas drôles. Enfin, et bien que jamais il ne se départît de son amabilité et ne se révolta contre les dogmes, une impossibilité de les lui imposer, de l'y convertir entièrement, comme il n'en avait jamais rencontré une pareille chez personne. Il lui aurait pardonné de fréquenter des ennuyeux, auxquels d'ailleurs, dans le fond de son cœur, il préférait mille fois les Verdurin et tout le petit noyau, s'il avait consenti, pour le bon exemple, à les renier en présence des fidèles. Mais c'est une abjuration qu'ils comprirent qu'on ne pourrait pas lui arracher. Quelle différence avec un nouveau qu'Odette leur avait demandé d'inviter, quoiqu'elle ne l'eût rencontré que peu de fois, et sur lequel ils fondaient beaucoup d'espoir, le comte de Forcheville. Il se trouva qu'il était justement le beau-frère de sa niette, ce qui remplit d'étonnement les fidèles. Le vieil archiviste avait des manières si humbles qu'il l'avait toujours cru d'un rang social inférieur au leur et ne s'attendait pas à apprendre qu'il appartenait à un monde riche et relativement aristocratique. Sans doute, Forcheville était grossièrement snob, alors que Swann ne l'était pas. Sans doute, il était bien loin de placer comme lui le milieu des Verdurin au-dessus de tous les autres. Mais il n'avait pas cette délicatesse de nature qui empêchait Swann de s'associer aux critiques trop manifestement fausses que dirigeait Mme Verdurin contre des gens qu'il connaissait. Quant aux tirades prétentieuses et vulgaires que le peintre lançait à certains jours, aux plaisanteries de commis-voyageurs que risquait Cottard et auxquelles Swann, qui les aimait l'un et l'autre, trouvait facilement des excuses mais n'avait pas le courage et l'hypocrisie d'applaudir, Forcheville était au contraire d'un niveau intellectuel qui lui permettait d'être abasourdi, émerveillé par les unes, sans d'ailleurs les comprendre, et de se délecter aux autres. Et justement, le premier dîner chez les Verdurin auquel assista Forcheville mit en lumière toutes ces différences, fit ressortir ses qualités et précipita la disgrâce de Swann. Il y avait à ce dîner, en dehors des habitués, un professeur de la Sorbonne, Brichot, qui avait rencontré M. et Mme Verdurin aux eaux. Et si ses fonctions universitaires et ses travaux d'érudition n'avaient pas rendu très rares ses moments de liberté, serait volontiers venu souvent chez eux. Car il avait cette curiosité, cette superstition de la vie qui, unie à un certain scepticisme relatif à l'objet de leurs études, donne dans n'importe quelle profession à certains hommes intelligents, médecins qui ne croient pas à la médecine, professeurs de lycée qui ne croient pas au thème latin, la réputation d'esprit large, brillant et même supérieur. Il affectait chez Mme Verdurin de chercher ses comparaisons dans ce qu'il y avait de plus actuel quand il parlait de philosophie et d'histoire. D'abord parce qu'il croyait qu'elles ne sont qu'une préparation à la vie et qu'il s'imaginait trouver en action dans le petit clan ce qu'il n'avait connu jusqu'ici que dans les livres. Puis peut-être aussi parce que s'étant vu inculquer autrefois et ayant gardé à son insu le respect de certains sujets, ils croyaient dépouiller l'universitaire en prenant avec eux des hardiesses qui, au contraire, ne lui paraissaient telles que parce qu'il n'était resté. Dès le commencement du repas, comme M. de Forcheville, placé à la droite de Mme Verdurin qui avait fait pour le nouveau de grands frais de toilette, lui disait « C'est original, cette robe blanche !» Le docteur, qui n'avait cessé de l'observer tant il était curieux de savoir comment était fait ce qu'il appelait un « deux » et qui cherchait une occasion d'attirer son attention et d'entrer plus en contact avec lui, saisit au vol le mot « blanche » et sans lever le nez de son assiette, dit « Blanche ? Blanche de Castille ?» Puis, sans bouger la tête, lança furtivement de droite et de gauche des regards incertains et souriants. Tandis que Swann, par l'effort douloureux et vain qu'il fit pour sourire, témoigna qu'il jugeait ce calembour stupide, Forcheville avait montré à la fois qu'il en goûtait la finesse et qu'il savait vivre, en contenant dans de justes limites une gaieté dont la franchise avait charmé Mme Verdurin. « Qu'est-ce que vous dites d'un savant comme cela ? » avait-elle demandé à Forcheville. « Il n'y a pas moyen de causer sérieusement 2 minutes avec lui. » « Est-ce que vous leur en dites comme ça à votre hôpital ?» avait-elle ajouté en se tournant vers le docteur. « Ça ne doit pas être ennuyeux tous les jours, alors. Je vois qu'il va falloir que je demande à m'y faire admettre. » « Je crois avoir entendu que le docteur parlait de cette vieille chipie de Blanche de Castille, si j'ose m'exprimer ainsi. « N'est-il pas vrai, madame ?» demanda Brichot à Madame Verdurin, qui, pâmant, les yeux fermés, précipita sa figure dans ses mains d'où s'échappèrent des cris étouffés. Mon Dieu, madame, je ne voudrais pas alarmer les âmes respectueuses s'il y en a autour de cette table, subrosa. Je reconnais d'ailleurs que notre ineffable république athénienne, ô combien, pourrait honorer en cette capétienne obscurantiste le premier des préfets de police à poigne. « Si fait, mon cher hôte, si fait !» reprit-il de sa voix bien timbrée qui détachait chaque syllabe en réponse à une objection de M. Verdurin. « La chronique de Saint-Denis, dont nous ne pouvons contester la sûreté d'information, ne laisse aucun doute à cet égard. Nul ne pourrait être mieux choisi comme patronne par un prolétariat laïciseur que cette mère d'un saint à qui elle en fit d'ailleurs voir de saumâtre, comme dit Sugère et autres Saint-Bernard. Car avec elle, chacun en prenait pour son grade. Quel est ce monsieur ? Demanda Forcheville à Madame Verdurin. Il a l'air d'être de première force. Comment ? Vous ne connaissez pas le fameux Brichot ? Il est célèbre dans toute l'Europe. Ah ! C'est Brichot ! S'écria Forcheville qui n'avait pas bien entendu. « Vous m'en direz tant » ajouta-t-il tout en attachant sur l'homme célèbre des yeux écarquillés. « C'est toujours intéressant de dîner avec un homme en vue. Mais dites-moi, vous nous invitez là avec des convives de choix ? On ne s'ennuie pas chez vous ?»« Oh, vous savez, ce qu'il y a surtout, » dit modestement Madame Verdurin, « c'est qu'ils se sentent en confiance. Ils parlent de ce qu'ils veulent et la conversation rejaillit en fusée. » Ainsi Brichot, ce soir, ce n'est rien. Je l'ai vu, vous savez, chez moi, éblouissant, à se mettre à genoux devant. Eh bien, chez les autres, ce n'est plus le même homme. Il n'a plus d'esprit. Il faut lui arracher les mots. Il est même ennuyeux. C'est curieux, dit Forcheville, étonné. Un genre d'esprit comme celui de Brichot aurait été tenu pour stupidité pure dans la coterie où Swann avait passé sa jeunesse, bien qu'il soit compatible avec une intelligence réelle. Et celle du professeur, vigoureuse et bien nourrie, aurait probablement pu être enviée par bien des gens du monde que Swann trouvait spirituels. Mais ceux-ci avaient fini par lui inculquer si bien leur goût et leur répugnance, au moins en tout ce qui touche à la vie mondaine et même en celle de ses parties annexes, qui devait plutôt relever du domaine de l'intelligence, la conversation, que Swann ne put trouver les plaisanteries de Brichot que pédantesques, vulgaires et grasses à écœurer. Puis, il était choqué dans l'habitude qu'il avait des bonnes manières, par le ton rude et militaire qu'affectait en s'adressant à chacun l'universitaire cocardier. Enfin, peut-être avait-il surtout perdu ce soir-là de son indulgence en voyant l'amabilité que Madame Verdurin déployait pour ce Forcheville. Codette avait eu la singulière idée d'amener. Un peu gênée vis-à-vis de Swann, elle lui avait demandé en arrivant « Comment trouvez-vous mon invité ?» Et lui, s'apercevant pour la première fois que Forcheville, qu'il connaissait depuis longtemps, pouvait plaire à une femme et était assez bel homme, avait répondu « Immonde !» Certes, il n'avait pas l'idée d'être jaloux d'Odette, mais il ne se sentait pas aussi heureux que d'habitude. Et quand Brichot, ayant commencé à raconter l'histoire de la mère de Blanche de Castille, qui avait été avec Henri Plantagenet des années avant de l'épouser, voulut s'en faire demander la suite par Swann en lui disant « N'est-ce pas, monsieur Swann ?» Sur le ton martial qu'on prend pour se mettre à la portée d'un paysan ou pour donner du cœur à un troupier, Swann coupa l'effet de Brichot à la grande fureur de la maîtresse de la maison en répondant qu'on voulut bien l'excuser de s'intéresser si peu à Blanche de Castille, mais qu'il avait quelque chose à demander au peintre. Celui-ci, en effet, était allé dans l'après-midi visiter l'exposition d'un artiste, ami de M. Verdurin, qui était mort récemment. Et Swann aurait voulu savoir par lui, car il appréciait son goût, si vraiment il y avait dans ses dernières œuvres plus que la virtuosité qui stupéfiait déjà dans les précédentes.